Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
Il émet des ondes radio.
Ma radio.
Vous allez vivre des minutes extraordinaires.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Calade Ma Radio. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur l'art du vitrail. Alors, pour parler de ce métier passionnant, je suis ravi de recevoir trois spécialistes de cet art. Nous sommes avec Marilyn Monel, bonjour.
Bonjour.
Mélanie Fauché, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Fangin, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Et si nous vous proposons cette émission spéciale, c'est tout simplement parce qu'une exposition sur leur travail aura lieu du 6 au 29 juin à Pouilly-le-Monial, organisée par l'association Chichounli, qui est représentée ici par son président Christophe Letteau. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Richard.
Alors Christophe, tu vas nous présenter cette exposition, puis surtout nous raconter comment est venue cette rencontre entre vous.
Eh bien, si tu le permets Richard, avant de vous raconter la naissance de ce projet, je te propose de dire un petit mot sur l'association et ses activités. Alors j'ai créé cette association ainsi qu'un lieu d'exposition pour continuer à diffuser l'œuvre de l'artiste plasticienne d'origine taïwanaise, Si Chun Li, ma défunte épouse. Nous présentons régulièrement son travail dont la principale thématique est l'expressionnisme abstrait, mais nous accueillons également d'autres artistes expression artistique et nous avons donc la chance cette année d'inviter trois créateurs verriers. Alors comment est né ce projet ? Eh bien, d'une rencontre, la visite de Mélanie Fauché accompagnée de Jean-Jacques Fangin lors de l'exposition de l'association l'année dernière. Et ça a fité entre nous, si tu m'autorises cette expression, Richard. Ensuite, j'ai découvert avec plaisir leur univers, leur vision commune, et voilà, c'était parti. Les pièces du puzzle se sont emboîtées, le projet est devenu réalité. J'en profite donc pour les remercier de leur confiance et de venir peindre la lumière au cœur de notre village de Pouilly-le-Monial, aux portes des Pierres Dorées.
Et je précise que le soir du vernissage, il y a un concert qui est organisé, avec Lou Rivail et Christophe Wagner, dont nous passerons quelques extraits au cours de l'émission. D'accord ?
Oui.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, je vous demande à chacun, où êtes-vous installé ?
Moi, je suis installé à Villeurbanne.
D'accord.
Je suis installé à Lyon.
Et je suis installé à Lyon, dans le 5e.
D'accord. Où on peut passer vous voir, passer des commandes.
Surtout passer des commandes.
Passer des commandes, ouais, d'accord.
Avec plaisir.
Ah, voilà. Et alors, pour commencer, je vous propose d'écouter Françoise, qui est au téléphone. Bonjour, Françoise.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. Bonjour.
Françoise, qui est notre guide conférencière spécialisée dans l'art en général et qui va rapidement nous faire un historique du vitrail. Donc, on l'écoute et je vous laisse réagir après.
Le vitrail, c'est une alchimie de sable et de feu, née dans l'Antiquité romaine. D'abord ornement, le verre s'invite peu à peu dans l'architecture, laissant filtrer la lumière sans l'arrêter. Dans les premières églises chrétiennes, il devient langage sacré. Chaque éclat raconte la foi. Avec l'essor des cathédrales, entre le XIe et le XIIIe siècle, le vitrail devient âme des édifices. Le célèbre bleu de Chartres illumine les nefs. La lumière peint la pierre et élève les âmes. Face à cette exubérance gothique, les cisterciens prônent l'épure, loin de l'affaiblir, cette sobriété affine l'art. L'arrivée du jaune d'argent au XVe siècle enrichit la palette. À la Renaissance, le vitrail s'humanise, dialogue avec les canons antiques. Mais au XVIIe siècle, le classicisme préfère la clarté. Le vitrail coloré s'efface, remplacé par le verre blanc. Et il faut attendre le XIXe siècle pour assister à sa résurrection. Les romantiques, fascinés par le Moyen-Âge, restaurent et réinventent les vitraux. L'art se raffine, les techniques se diversifient. Puis l'art nouveau et l'art déco en font des objets modernes, courbes végétales, lignes géométriques. Le vitrail s'invite dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, il se réinvente encore. Entre verre thermoformé et encre numérique, le vitrail devient sculpture ou manifeste entre tradition et création. Présent dans nos écoles, musées, aéroports, il continue de capter la lumière du monde. Et le saviez-vous ? La France détient le record mondial de surface vitrée artistique, avec près de 90 000 mètres carrés de vitraux.
Merci Françoise. Alors, qui veut intervenir ? Non ?
Tout est dit, hein.
Tout est dit,
oui.
D'accord. Alors, comment est votre passion ? Comment devient-on spécialiste de l'art du vitrail ? Est-ce qu'il... Et puis, alors, surtout, comment faut vous appeler ? Maître verrier ou peintre verrier ?
Je crois que tous les trois, on préfère le terme de peintre verrier, qui correspond d'ailleurs à notre travail, c'est-à-dire que à la fois il y a un travail de peinture sur verre et le vitrail, comme ça a été dit précédemment, peint à la lumière. Donc c'est un terme qui nous convient, je pense à tous les trois. Enfin, je pense qu'avec oui. Marilyn et Mélanie, c'est un terme qui nous convient.
D'accord. Et alors une formation spécifique, vous avez eu non?
Oui. Moi, j'étais en fac d'art plastique et en parallèle, j'ai suivi des cours du soir en vitrail pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai continué pendant 2 ans un CAP, un apprentissage dans 2 ateliers différents. Au CERFAV, le Centre européen de recherche des arts verriers,
formation
aux arts verriers, voilà, vers Nancy. Voilà le parcours.
Moi, j'ai passé un CAP à Paris, au lycée Lucas de Neuhaus, qui est un lycée spécialisé dans les métiers du verre à froid, miroiterie, vitrail et décor du verre.
D'accord. Bon, Jean-Jacques, non, ça fait longtemps que vous êtes formé sur le tard.
Oui, c'est là. Il y a plein de possibilités de chemin pour la formation. Ouais. Moi, je me suis formé en atelier. Et parallèlement, parce qu'à l'époque, dans les années 70, l'alternance n'existait pas. Donc voilà, j'allais au cours du soir des Beaux-Arts ou aux cours municipaux de dessin, et tout en faisant un apprentissage chez des maîtres verriers. Allez. Donc voilà, en fait, c'est une pratique d'atelier.
D'accord.
Et parallèlement, il y a une culture artistique à développer, enfin une curiosité et à avoir pour justement, ça fait partie de la formation.
Alors on va parler un peu technique. Comment travaille-t-on le verre? Comment on utilise le plomb? On a envie de savoir.
Bon, visiblement...
Tu commences toutes les phrases.
La technique traditionnelle du vitrail, c'est verre et plomb. C'est-à-dire que la tradition du vitrail, c'est un peu comme la mosaïque. Quand on change de couleur, on change de pièce. C'est le vitrail un peu médiéval, ça. Mais comme il a été dit tout à l'heure, la technique a évolué. Maintenant, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut appeler vitrail des verrières qui n'ont pas de plomb. C'est-à-dire de travailler sur des grandes plaques, sur des monoblocs. Tout est possible. C'est pas la technique classique, c'est verre et plomb, mais on peut vraiment utiliser d'autres techniques. C'est aussi du vitrail. À partir du moment où on travaille avec la lumière, on filtre la lumière, c'est du vitrail. Quelle que soit la technique utilisée.
Et quelle que soit la matière.
Et quelle que soit la matière.
Parce qu'il y a aussi des vitraux dans d'autres matières que du verre.
Ah, ouais.
Je pense aux vitraux de favier.
En porcelaine.
Les faviers qui sont en porcelaine. Ouais. Ou en albâtre, ça existe aussi.
Ouais. Mais il y a une transparence.
Une translucidité.
Ouais.
Ah, d'accord.
Ouais. Et en fait, quand vous parlez de la transparence, dans le vitrail, à la fois, bien sûr, que c'est la lumière, c'est la transparence, mais... Le noir, l'opacité, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on joue avec la lumière. On la laisse passer, on la filtre ou on bloque la lumière. Ça fait partie des possibilités pour mettre en valeur la couleur, la lumière. Il y a des vitraux où il y a des éléments en pierre qui ont été opaques. Enfin, des pierres opaques, forcément, qui ont été montées avec du vitrail. Le résultat est plutôt intéressant. Tout est possible. C'est le résultat qui compte. Tout dépend comment on se sert des matériaux. En fait, ce n'est pas la richesse des matériaux qui fait la beauté du vitrail. Enfin, il y a un grand débat là-dessus. Moi, je pense que c'est... Le matériau principal, c'est la lumière. C'est là-dessus qu'on travaille. On peut utiliser des verres industriels. Le résultat est sans doute aussi intéressant qu'avec des verres soufflés. C'est pas la qualité des matériaux qui peut déterminer si le vitrail est intéressant ou pas. Enfin, C'est l'utilisation qu'on en fait, les matériaux.
D'accord.
Oui ?
Non. Parce que j'ai vu que la technique a beaucoup évolué à la Renaissance.
Ouais.
Donc, par exemple, les coupes au diamant, l'introduction de l'émail, ouais. La palette de couleurs s'est enrichie. Ouais. Il y a eu la réalisation des incrustations et du coup, c'est l'apparition de la perspective. Ouais. Donc, tous ces différents procédés, qu'est-ce que ça a apporté vraiment ? Ça a apporté un gros changement à la technique, au travail du vitrail ?
Il y a la gravure aussi, quoi, hein, qui est apparue.
Ça libère la composition ?
Ouais. C'est-à-dire que c'est des nouveaux outils au service de la créativité ou de la restauration, etc. C'est des nouveaux outils. Mais au-delà même du vitrail, etc., les nouveaux outils, on les voit venir actuellement. Hein. Il me semble que l'important, c'est comment on s'en sert. C'est vrai que, par exemple, ce que vous évoquez sur les nouvelles techniques, ce qu'on peut constater, c'est que ça permet de, au 19e siècle, par exemple, les pièces des vitraux se sont agrandies. C'est moins les mosaïques médiévales. Parce que sur une même pièce, on peut avoir plusieurs couleurs. Alors, avant la gravure, avant le jaune d'argent, avant le jaune cousin, qui est un oxyde pour faire les visages, les carnations, il fallait couper, mettre un autre verre, et pour relier les pièces de verre, mettre du plomb. Là, avec ces nouvelles techniques, les pièces des vitraux se sont agrandies. On le voit vraiment dans les vitraux 19e, hein, où il y a des très grandes pièces. Toutes les nouvelles techniques sont intéressantes. Enfin, c'est la façon dont on s'en sert qui compte.
D'accord, c'est le résultat.
C'est le résultat.
D'accord. Ouais. Alors, je propose de faire une petite pause musicale. On va écouter, mais avant d'écouter Lou Riva et Christophe Hollner, Christophe, tu vas nous les présenter.
Oui, très bien. Alors, je commencerai par Lou Riva, hein, que nous allons accueillir lors du vernissage. Est une chanteuse, instrumentiste, interprète et compositrice, principalement influencée par le jazz et les musiques du monde. Elle s'est fait une vraie place dans le jazz vocal et instrumental d'aujourd'hui à travers des multiples facettes de vocaliste et ses créations très diverses et variées. Elle sera accompagnée de Christophe Hollner, au piano. Il est originaire des Hautes-Alpes et c'est un musicien éclectique et créatif. Il a exprimé son talent au sein de nombreux projets musicaux reconnus. Et par exemple, il est le pianiste du groupe de jazz connu, très connu, qui est Fun. Voilà, où il exprime son inventivité au travers de ses compositions.
C'est bien. Donc, on va écouter un extrait de son dernier album qu'elle nous présentera le 7 juin. On est d'accord ? Donc, c'est le mythique morceau « I Don't Know », originellement composé et chanté par l'artiste Noah, que le duo choisit de revisiter en version plus intime et douce dans un cadre enchanté. Le duo s'amuse à réarranger, triturer, réinterpréter les chansons dans leur nostalgique boîte à musique, permettant une relecture touchante et éclairée. Presque une redécouverte des tubes d'Henri Salvador, Azazie, en passant par Alain Souchon ou bien même Julien Clerc. L'influence jazz se mêle à la chanson par de nombreux instants improvisés, laissant place à l'expressivité complémentaire et unique des deux artistes. On écoute « I Don't Know ».
Out there, hey, hey, yeah. 100.9.
C'était I Don't Know de Lou Riva et Christophe Wallner. Je rappelle que nous sommes avec trois invités qui nous parlent de leur passion, l'art du vitrail, Marilyn Monel, Mélanie Fauché et Jean-Jacques Fanja. Alors nous allons continuer à parler d'autres métiers passionnants. Donc dans votre travail, bien sûr, c'est la restauration, mais il faut parler de la création. Est-ce que c'est vraiment le côté le plus fort, le plus intéressant pour vous? Ou bien c'est, il y en a moins que de la restauration, je suppose? Qui se lance?
C'est un métier de commande. Donc la commande détermine l'agenda de production de l'atelier. S'il y a des périodes où on pouvait avoir plus de commandes de création, d'autres plus de commandes de restauration. Mais je crois que tous les trois, on est quand même plutôt intéressés par la création.
En fait, c'est deux aspects du métier, la restauration et la création, c'est le même métier. Donc, on est amené à faire les deux activités.
Oui, mais vous m'aviez dit que quand on vous fait de la création, vous proposez un projet, vous ne voulez pas le modifier.
C'est un peu plus nuancé que ça, mais en fait, c'est la création... Pour définir un peu la restauration et la création, la restauration, on travaille sur une œuvre qui a été réalisée par un autre artiste, un autre verrier. Donc, il faut respecter l'œuvre et on est au service de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'artiste en modifiant, on est au service de cette œuvre. La création, tout est possible. Donc, on décide... tout est possible. Après, je pense que chaque verrier fait des propositions suivant sa sensibilité. Voilà quoi. Je dirais que naturellement on sélectionne un petit peu les projets en fonction de sa sensibilité et là où on peut faire les meilleures propositions. Je crois que c'est là où on est les meilleurs quand l'intention nous convient, quoi.
Vous sentez que ce que vous proposez, ça va plaire au client?
Il y a un cahier des charges qui nous permet quand même de guider le travail. Enfin, il y a quand même un cahier des charges, même technique, qui va donner une orientation déjà au projet. Et puis, il y a aussi l'utilisation des lieux qui va orienter énormément le travail. On ne travaille pas de la même manière pour une église ou une cuisine.
Oui,
je fais un exemple. À quoi il sert le vitrail dans cet endroit? Pour qui il est? Ça va orienter énormément les choix qu'on fait... de technique, de matière.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le... Si on parle... C'est essentiellement sur commande, le vitrail, comme le disait Mélanie. Ce qu'il faut un petit peu classer, il y a à la fois les commandes privées et il y a les commandes publiques. Les commandes privées, pour l'une ou pour l'autre... comme le dit Mélanie, il faut tenir compte des contraintes du cadre architectural, de la lumière. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les contraintes. Le cahier des charges, c'est les contraintes, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur une page blanche. Il y a un lieu. Non, mais physiquement, on a une page blanche. On travaille sur nos propres dessins. Mais dans notre esprit... C'est pas une page blanche, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, il y a tel type de lumière, c'est tel type d'architecture. Il faut, y compris dans l'expression contemporaine, il faut que le vitrail trouve sa place. Y compris, par exemple, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que Marilyn ou Mélanie en parleront, mais on a travaillé dans des édifices classés monuments historiques, mais on propose du contemporain. Donc, après, c'est d'être, quel que soit l'endroit, c'est d'être pertinent. Notre proposition, c'est la réalisation trouve sa place.
Est-ce que vous aimeriez ne pas avoir les contraintes?
Non.
Et vous laisser complètement...
Ça arrive quand on travaille dans nos ateliers et qu'on... Justement, comme les pièces qu'on va présenter à l'exposition, qui sont plutôt des pièces de recherche, d'expérimentation... Et qui, en fait, sont justement l'endroit où il n'y a aucune contrainte.
Mais c'est pas une commande, c'est un vitrail d'atelier, c'est une recherche. C'est très différent, la démarche, elle est vraiment opposée.
Non, mais, et puis, moi particulier, j'arrive, je dis, tiens, je vais mettre un vitrail à tel endroit, je vous laisse faire, en fait.
Ah, c'est ça.
Je ne vous mets pas de contrainte.
Nous, on va aussi tenir compte de l'intérieur, de vous aussi, du ressenti qu'on peut avoir des personnes qui occupent le lieu quand il s'agit de particuliers.
Oui, mais au niveau du motif, vous ferez bien ce que vous voudrez.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de contraintes, on ne parle pas de ça.
On est d'accord.
En fait, je me suis mal exprimé peut-être, mais on ne parle pas de ça. La contrainte, c'est où, à quoi va servir le vitrail, comme le disait Mélanie, à quelle hauteur est le vitrail, comment il est orienté, quel cadre architectural il va y avoir pour essayer de faire une proposition. C'est ces contraintes. Après, on peut travailler sur une thématique. Ouais. Je pense que Mélanie et Marilyn peuvent s'exprimer là-dessus. Mais en ce qui me concerne, par exemple, ça peut m'intéresser de travailler sur une thématique à condition que la forme soit libre. C'est-à-dire que si on me dit... si on commence à me parler on peut échanger, parce qu'en fait, on est des professionnels, donc on se comporte en professionnel, on sait écouter aussi, quoi. Et peut-être que la personne a de bonnes idées, mais peut-être pas. Et la responsabilité quand même de professionnel, c'est de dire, je pense que c'est peut-être pas les choix qu'il faut faire. Quand vous pensez à un vitrail, peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Parce que les contraintes dont on parlait tout à l'heure, la lumière, etc., peut-être qu'il faut envisager le vitrail autrement. C'est là où on peut avoir... C'est la responsabilité d'un professionnel, dans n'importe quel métier, et y compris dans les métiers d'art. C'est un engagement et c'est une responsabilité.
Parce que je compare avec un architecte qui me fait un projet, il y a des choses qui ne me plaisent pas, il va remodifier quand même. Vous, non.
Il y a une marge de manœuvre. On est peut-être un peu différent. Après, dans une certaine mesure, je pense qu'on est tous capables de dire non, ça c'est un non-sens, ça n'a pas d'intérêt ici, ou des choses comme ça. Mais effectivement, il y a une discussion avec les personnes qui passent la commande.
Et des échanges. Non, mais c'est pas pour. Je pense que.
Oui, c'est pas rigide quand même.
Non, c'est pas rigide.
D'accord. Déjà, quand même.
Sensible.
On peut être un peu rigide.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut à la fois avoir cette souplesse, c'est-à-dire qu'effectivement, si on peut avoir des échanges avec donc des personnes qui sont intéressées, je pense qu'il y a des propos qui sont intéressants. Hein. Bien sûr, c'est pas...
Et qui vont vous aider dans la création.
Bien sûr. Et qui vont peut-être... On peut peut-être changer d'opinion et... Après, c'est la forme, c'est-à-dire qu'avec les échanges, les discussions, peuvent nous amener à nous aider à faire une proposition. Mais je pense qu'il faut aussi, c'est un peu un avis qu'on partage, mais il faut aussi avoir le courage de présenter quelque chose de personnel. Le vitrail, c'est à la fois une expression personnelle, c'est singulier le vitrail. C'est très différent d'une peinture de chevalet. C'est à la fois quelque chose qui appartient à l'expression, à un mode d'expression, mais en même temps, ça rentre dans un cadre architectural qui existe. Il ne s'agit pas du tout de faire son œuvre. Il faut tenir compte, c'est pour ça que...
De l'environnement, etc.
De l'environnement, de la lumière, etc. Parce que, en fait, le vitrail, il naît quand il est posé, dans l'ouverture. Avant, ça n'existe pas.
Ah, vous ne pouvez pas tester avant ?
La lumière est différente.
Oui.
Ah oui. Donc ça peut être un peu... Non, vous avez un peu l'angoisse en arrivant pour le poser, en vous disant ça va marcher, pas marcher ?
Oui, c'est un peu l'angoisse, oui, mais avec le temps aussi, on arrive quand même à se projeter, à imaginer un rendu. On peut arriver aussi avec quelques échantillons de couleurs, de verres, pour tester un peu la lumière sur place, mais quand même, ça reste toujours une surprise, la pose.
C'est la surprise à la dernière minute.
Mais oui, parce que c'est
logique.
Oui, la
c'est
bonne
là,
en général. Ouais.
Là, c'est en fait, un processus, tout ça.
Oui, c'est ça. C'est un temps long. Mm. Il y a, dans la réalisation du vitrail, c'est un temps long.
D'ailleurs, il faut du temps. Je vous commande un vitrail le matin. Il faut combien de temps pour l'avoir?
Eh ben, c'est extrêmement variable.
Ah oui.
Il faut trouver l'idée déjà.
C'est un temps, oui, c'est un temps de réflexion, de rencontre, ouais. D'aller dans un lieu, de comprendre comment il vit, quelle lumière il a, comprendre la commande aussi.
Voilà, la commande, donc c'est quelque chose. Ouais. C'est pas du jour au lendemain, quoi.
Non. On fait pas du vitrail de catalogue.
Voilà, de catalogue. Mmh. D'accord. Bon, ok. Alors, vous parlez de la lumière. Vous avez commencé à en parler, mais revenons sur la lumière. C'est vraiment la matière première, comment ça fonctionne?
On va répondre, mais le vitrail, c'est vraiment la séparation entre, quel que soit l'endroit, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, quel que soit les dimensions architecturales, monumentales, pardon, ou pas. La lumière pénètre dans un édifice. Le vitrail, il sert de filtre. C'est une peau qui vient sur l'architecture. Hein. C'est ce qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Il va filtrer la lumière, la modifier. Mais c'est justement la pertinence et la difficulté, l'appréciation qu'on doit avoir pour savoir à tel endroit quel type de lumière, quel verre il faut utiliser. Et à quoi, c'est pour ça que ce que disait Mélanie, c'est fondamental sur à quoi va servir le vitrail. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, sans citer de lieu, mais on propose pas, on ne réfléchit pas à un vitrail de la même façon si le vitrail est fait pour méditer, si on s'arrête devant, si on passe en courant devant un vitrail, si ça c'est déterminant, c'est-à-dire que dans la composition. Après c'est un peu bon, ça serait un peu long à développer, mais
oui. Mais alors, lorsque par exemple au Moyen Âge, ils passaient leurs commandes de vitraux, par exemple dans les églises, bien évidemment, c'est eux qui imposaient, c'était l'Église qui imposait le dessin. Donc c'était pas très compliqué pour arriver à faire filtrer la lumière en fonction
des
personnages.
Aujourd'hui aussi, quand il y a une commande publique pour un édifice religieux, en général, il y a quand même
une thématique
religieuse, ouais. Parfois même des passages de la Bible, si on parle d'une église, qui sont cités comme point de référence. Après, ce n'est pas pour autant qu'on fera quelque chose de figuratif, mais ce sera un point de réflexion. Donc effectivement, la démarche est un peu la même. Ouais. Simplement, elle ne va pas s'exprimer de la même manière.
Ouais, après, c'est peut-être compliqué pour vous d'arriver à bien filtrer par rapport à la demande.
C'est-à-dire, ce qui est imposé, c'est pas le dessin, c'est l'intention, c'est l'idée. C'est une thématique. Au Moyen Âge, je pense que oui, c'était pour expliquer l'Ancien Testament, pour expliquer la vie des saints, etc. Donc, il fallait que ce soit
Une iconographie précise, des signes.
Mais ils n'imposaient pas le dessin. Ils laissaient quand même le verrier. Après, il fallait, justement, il y avait une thématique bien précise.
Ah oui, donc ça pouvait permettre au verrier d'utiliser la couleur du verre qu'il souhaitait par rapport à la diffusion des lumières. Donc c'est un moyen d'expression, le vitrail. Ça transmet un langage particulier. Voilà. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de la bande dessinée, peut-être?
Oui, on l'a déjà lu, entendu. Ah, ouais.
Surtout pour le vitrail médiéval, oui. Parce qu'en fait, ce qui était destiné à une population, à une partie de la population qui ne savait pas écrire.
Forcément lire
et écrire. Donc il fallait que ce soit expliquer la vie des saints, que ce soit...
Ouais, ça raconte quelque chose, oui, ça raconte...
Ça raconte, mais ça sacralise aussi la lumière. Parce que quand il y a des baies qui sont à des hauteurs très importantes, avec des médaillons tout petits, c'est pas tellement lisible d'en bas. Finalement, c'est symbolique aussi. C'est-à-dire que la lumière traverse ce vitrail qui raconte l'histoire d'un évangile ou quelque chose comme ça. Et du coup, la lumière est sacrée en entrant, en passant à travers. Je pense qu'il y a ça. Ouais. Il y a aussi une question de distance. C'est pas qu'une illustration. C'est aussi une matérialisation.
Ouais, c'est matérialisé.
De la lumière.
En fait, la lumière, c'est un peu le même principe quand dans un local, il y a beaucoup de poussière et qu'il y a un rayon de soleil qui passe.
Et on voit la poussière.
Et on voit la lumière, qui est prise dans... Donc nous, on n'utilise pas de poussière, mais le verre, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un aspect des choses, ça matérialise cette lumière, elle est colorée, et ce qui est très intéressant, c'est aussi ce qui se passe avec la projection de lumière colorée sur la pierre, sur les murs. On a tous vu, en visitant des monuments, des moments où la pierre est éclairée par la lumière des vitraux. Je dirais que c'est presque plus intéressant que le vitrail. Mmh.
La réflexion de la lumière. D'accord.
La matérialité.
C'est comme en photo, quoi. Des fois, en photo, on se sert de filtre. Vitrail, c'est un peu ça, quoi. On raconte aussi quelque chose. On peut raconter quelque chose. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est en fait ce qu'on n'arrive pas à comprendre avec le vitrail. Un vitrail, on est touché par quelque chose, mais comme c'est une œuvre d'art, quoi. En fait, on essaye d'avoir une explication pour se rassurer et pour rassurer les autres, mais très souvent, on ne sait pas pourquoi ça nous touche.
Bien. Je propose de faire une deuxième pause musicale avec un autre morceau de Lou Reed et Christophe Wallner, qui est une revisite de la chanson « Foule sentimentale » d'Alain Souchon. On écoute.
Un cheval. des choses pas commerciales, full sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle, comment on nous parle.
Calade.
Ma radio.
Voilà, c'était Foule Sentimentale, revisité par Lou Rivail et Christophe Wollner. Donc, je rappelle que nous sommes toujours avec nos trois invités qui nous parlent de leur passion, l'art du vitrail, Marilyn Monel, Ménéi Fauché et Jean-Jacques Fanja. On va continuer à parler de votre métier passionnant, mais je vais laisser la parole à Françoise qui avait une remarque, je crois.
En fait, je voulais revenir sur ce que disait Jean-Jacques quand il dit que maintenant on peut faire des vitraux sans plomb. Est-ce qu'on pourrait pallier ça au XIXe siècle? Il y a une redécouverte du médiéval et qu'on s'intéresse au vitrail dans l'espace public, avec l'Art Nouveau par exemple, et que les techniques vont pouvoir permettre de faire des pièces d'un seul tenant, sans plomb. Ça m'interpelle.
Alors, je n'ai pas tout compris, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans l'expression contemporaine, ouais, on peut parler de vitrail, en utilisant que des volumes de verre sans plomb. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'utilisation du plomb qui permet d'appeler vitrail une réalisation. Il y a pas mal d'exemples où on utilise des plaques de verre, voire même du verre industriel, avec un travail de sablage, de thermoformage. On peut utiliser aussi des pigments, le jaune d'argent. On utilise les outils et les pigments traditionnels, hein, mais c'est dans la façon de les utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, avec Marilyn et Monel et Mélanie Fauché, on a fait dans une chapelle romane. On a participé à un concours, on a été retenu et on a proposé des vitraux sans plomb. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des plaques de verre d'une seule pièce qu'on a travaillé à la grisaille. On a gravé le verre par du sablage. On est intervenu sur la surface du verre, mais c'est pas une technique traditionnelle. Mais on n'a rien inventé, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres très belles réalisations qui ont été réalisées suivant cette technique.
Oui, tu avais été très clair par rapport à ça, mais moi je me demandais si justement, est-ce que c'est vraiment une évolution des techniques qui permet de faire des vitraux sans plomb, ou est-ce que c'est pas aussi au moment du 19e où on revisite le vitrail avec le Moyen-Âge par une évolution des techniques qu'on arrive à ça, ben, quand ça passe dans l'espace public.
Ouais. C'est-à-dire que c'est sûr que l'évolution des techniques, ce qui nous permet de travailler par exemple avec des verres de grande dimension, c'est des verres qui présentent une solidité, qui permettent de travailler dans ces dimensions. Ça, c'est les techniques de sablage qui permettent de travailler. Et puis, c'est à la fois ces nouveaux outils, et ça correspond aussi à l'expression contemporaine.
D'accord.
Mais je crois que vous avez parlé des vitrails art déco, et je pense que c'est là où on voit aussi que à cette époque, donc à l'art nouveau ou à l'art déco, les vitraux qui sont réalisés sont vraiment adaptés à l'architecture aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Donc, c'est ce qu'on voulait tout à l'heure évoquer. C'est-à-dire qu'ils sont... ils trouvent une place dans un cadre qui les rend cohérents dans un ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir un décor peint, des ferronneries, de la céramique ou de la marqueterie, etc. Et les vitraux viennent... dans cette, dans cette façon de travailler. Ben, en fait, c'est la tradition du Bauhaus, où l'art était au service de l'architecture et venait en cohérence avec l'architecture.
Comme autant de...
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée d'œuvre d'art totale? Merci. Où on déhiérarchise l'artisan et l'artiste?
Oui, c'est un grand débat. Oui. C'est-à-dire qu'après, artisan ou artiste, c'est un débat... Généralement, enfin bon, je trouve que ça, c'est au résultat qu'on voit. Si c'est un travail qui est un peu réfléchi, si c'est un travail sensible ou pas, c'est le résultat. Je pense qu'on connaît, plein d'exemples dans ce domaine. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les années, au milieu du 19e, il y a eu un tournant justement avec des artistes reconnus, et, Chagall, Braque, Matisse, etc., qui ont servi justement de locomotive, hein, qui ont vraiment créé des vitraux d'artistes. Et là, ces artistes ont collaboré avec des verriers, sont fait accompagner par des ateliers de verriers talentueux, mais c'était des œuvres d'artistes. Ça existe toujours, hein. Maintenant, il y a ce type de fonctionnement. Là, je pense que, par exemple, on a... Je pense que Marilyn ou Mélanie vont s'exprimer là-dessus, mais on appartient, je pense, à une famille qui on a la prétention, peut-être à tort, mais y compris de travailler sur nos propres dessins. C'est-à-dire qu'on n'est pas... simplement exécutant. On veut être aussi faire des propositions, proposer des projets.
Et mais alors, quand vous travaillez ensemble sur un appel d'offres, comment vous travaillez? Vous répartissez comment la charge?
Alors, on répond ensemble. On va sur place. On est allé, par exemple, pour Belvezet. On peut parler de Belvezet. On est parti ensemble visiter l'église et à l'issue de ce rendez-vous, de cette visite, on a un peu échangé nos ressentis. Chacun avait un ressenti par rapport au lieu et on croise ces ressentis. Et ensuite, on a désigné Jean-Jacques aux maquettes, à la réalisation des maquettes. On avait quand même chacun un peu, avant ça, réfléchi et on s'est fait des propositions.
En fait, il y a tout un travail, excuse-moi, mais si je peux me permettre de compléter, il y avait tout un travail, un échange entre nous. Et on s'est aperçu, sans avoir, qu'on avait le même point de vue sur le projet. C'est un moment où, dans la réflexion, c'est un peu compliqué d'être précis. C'est-à-dire qu'on ressent, on se dit, il faut être silencieux dans ce lieu où il faut apporter de la couleur. Je pense qu'on avait un peu un même point de vue. Je t'ai coupé, mais vas-y, Marie.
Non, mais après effectivement, donc, du coup, comme disait Marilyn, il a bien fallu désigner une personne pour faire les maquettes, et Jean-Jacques s'est retrouvé à ce poste, mais au départ, c'est un échange, donc une visite, on a beaucoup échangé, on a, comme tu disais, partagé nos idées, on s'est retrouvé autour d'une thématique collective dans ce lieu. Et ensuite, Jean-Jacques a matérialisé tout ça, a vraiment rassemblé l'ensemble de nos envies pour ce lieu et a donné une forme à ça. Et après, on a commencé à... Bon, après, il y a eu la phase de concours, etc. passons. Mais ensuite, la fabrication, c'était vraiment aussi une réflexion collective sur les techniques à utiliser.
Oui, parce que quand vous parlez du concours, vous ne présentez qu'une maquette là, à ce moment-là.
Ouais.
D'accord.
Ouais, on présente
enfin, un dossier. C'est compliqué.
On n'est pas dans la fabrication, on est dans la présentation.
Dans la présentation, c'est sur papier. Voilà, ouais, la maquette est toujours sur papier à l'échelle réduite. Un cinquième ou un dixième selon les dimensions finales.
Avec un échantillon.
Un échantillonnage. Et mais ça détermine aussi les choix des techniques qu'on va utiliser, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des différentes techniques. À ce moment-là, il a fallu faire des choix dans ce qu'on voulait représenter ou pas, et comment le représenter.
C'est pour ça que les échanges que nous avons eus après la visite préalable, en fait, c'est le plus gros travail. Mettre ça sur le papier, je dirais que c'est pas la partie la plus compliquée. Le débroussaillage a été fait avant. En fait, les choses étaient dites, le terrain était préparé. Après, il fallait que le dessin, que la proposition, mais c'est le résultat d'échanges, de croquis entre nous, etc. Je voulais revenir sur les maquettes et sur le...
Oui.
Pour un concours ou pour un appel d'offres, on ne vient pas avec le vitrail sous le bras en disant « voilà, c'est ça que je vais faire ». Parce que le vitrail, c'est du temps, c'est du verre, ça coûte cher. Donc ça passe par différentes étapes. Une étude, plus ou moins approfondie, et ça passe par une maquette. La maquette, c'est du papier, donc ce n'est pas le vitrail. Donc... il faut accompagner la maquette par un échantillon en verre, mais ça suppose et puis de pouvoir, comme on peut, expliquer un petit peu ce qu'on propose, expliquer l'intention. Alors, expliquer l'intention, c'est compliqué parce que on fait ça avec nos mots. Le jury qui va prendre les décisions. Il faut qu'ils comprennent et puis qu'ils puissent imaginer que ce qu'on a dessiné sur le papier, ça va être un vitrail. Vitrail, ça coûte cher. Donc, c'est aussi un engagement de leur part. Il y a un passage entre la concrétisation de l'intention, c'est la maquette, et d'expliquer ça pour décrocher la commande. Tant que le vitrail n'est pas fait, ça n'existe pas. Enfin, moi,
Est-ce que vous avez le risque, en présentant une maquette et après l'avoir réalisée, que ça ne corresponde pas
Non. La maquette doit figurer l'ensemble des éléments qui vont figurer sur le vitrail. Enfin, il faut que ce soit le plus proche possible. Après, il y a une part de...
d'imprévus, d'accidents qui peuvent venir enrichir une composition et qu'on peut décider de garder ou non.
Mais l'avantage de la maquette papier, c'est que vous pouvez retravailler un peu dessus, quoi.
Oui.
C'est ça aussi.
Et puis en se disant que en fait, le vitrail est plus intéressant que la maquette. C'est ça le but.
Ouais. Plus riche.
Parce qu'en fait, on vend pas la maquette. C'est à un moment donné, quand on discute, on a beau expliquer, essayer de trouver les mots pour expliquer vraiment l'intention, c'est le dessin, la maquette qui va dire, voilà, c'est comme ça, on voit les choses comme ça, ça, les couleurs, etc. Ça coûte temps, parce que cet aspect, il y a un dossier quoi, qui accompagne, mais il ne s'agit pas, le vitrail n'est pas l'agrandissement de la maquette.
D'accord.
On donne un développement à une intention, mais c'est pas l'agrandissement. Il faut enrichir, comme vient de le dire Marilyn.
Et c'est là où il faut nous faire confiance.
Oui, oui, c'est extrêmement important.
Très important, bien sûr.
Bien sûr.
Alors, malheureusement, Mathieu, qui a la technique, me fait les grands signes que l'heure tourne. Alors, avant de conclure cette émission, je rappelle donc que vous allez présenter vos œuvres à l'exposition tout le mois de juin au siège de l'association Chichounli à Pouilly-le-Monial. Donc, présentez-nous rapidement cette exposition, comment elle va se dérouler, quel genre d'œuvre vous présentez, accessible bien à n'importe quelle partie qui pourront acheter, qui pourront déjà échanger avec vous.
Alors, dans l'exposition, on présentera des pièces d'atelier, des vitraux qu'on a réalisés individuellement, qui prennent des formes différentes. Ça peut aller au-delà du vitrail. Il y aura des pièces en verre, mais qui ne sont pas... On va pas revenir sur la définition du vitrail.
Faut venir voir.
Faut venir voir. Voilà, oui, on est bien d'accord.
Donc on présente des pièces personnelles, mais qui, comme vous l'aurez compris, on travaille aussi régulièrement ensemble, se font écho dans notre manière de travailler.
Mais là, ça sera des œuvres. C'est le vitrail lui-même que vous présentez.
Oui, oui, bien sûr.
Donc si je viens, s'il me plaît, je l'achète. S'il me plaît pas, je vous demande de faire une maquette et de m'en faire autre chose. Voilà,
c'est ça. Vous pouvez passer commande, effectivement.
Voilà. C'est important, mais c'est important de le signaler. Christophe. Ouais. Ah non, c'est nous. Allez-y, Jean-Jacques.
Non, non. Pour, si je peux compléter ce que vient de dire Mélanie, c'est notre travail, c'est un travail d'atelier de commande. C'est-à-dire, comme on le dit, on ne va pas répéter, mais c'est s'appuyer sur les éléments d'architecture et de lumière. Une exposition, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des vitraux pour la lumière du site. Dans la sélection des vitraux qu'on présente, on a tenu compte du lieu qu'on a visité. Donc on s'est dit, on va plutôt mettre ces vitraux, ils vont trouver leur place, etc. Mais c'est pour ça que c'est un peu libre des contraintes habituelles. C'est-à-dire que c'est libre des contraintes de lumière, de lieu, etc. Oui. Mais on a quand même tenu compte, comme on a visité tous les trois le site, on a sélectionné des vitraux qui peuvent trouver, à notre avis, une place dans cette salle d'exposition.
Mais si quelqu'un achète une, il faut aussi qu'elle s'adapte chez elle.
Oui, ben...
Mais comme une toile, ça, c'est un coup de cœur, voilà. Après...
Exactement. Christophe, tu nous rappelles les dates d'exposition ?
Oui, donc l'exposition aura lieu à Pouilly-le-Monial au 312 route de Jargnoux, du 6 au 9 juin...
au 29. 29.
Du 6 au 29 juin, merci de me rappeler la date. Donc tout le mois de juin, les week-ends, de 15h à 19h, donc en 312 route de Jargnoux. Et le vernissage aura lieu le 7 juin, le samedi 7 juin, à partir de 18h, avec un concert en plein air à 20h, avec Laurie Vaille et Christophe Wallner.
Eh bien écoutez, venez nombreux, vous pourrez échanger avec les artistes. Donc je remercie Françoise au téléphone. Je remercie tout particulièrement Marilyn Monnel, Mélanie Fauché et Jean-Jacques Frangin d'être venus aujourd'hui nous présenter leur passion sur l'art du vitrail. Je remercie Christophe, président de l'association chez Chouny, d'être présent. Et je remercie également Mathieu à la technique. Et vous pourrez réécouter l'émission tout au long du mois de juin. Voilà, pour nous quitter, nous allons partir sur un dernier morceau de Lou Rivaille. C'est la sublime chanson « J'envoie valser » de Zazie, que le duo revisite en se laissant emporter par les mots, les mélodies et l'instant présent. Au revoir et à une prochaine fois.
Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr. En toc, en cage d'or.
toi.